France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Saltienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. C'est l'un des sites les plus visités au monde, mais contrairement aux autres, il ne fonctionne ni sur l'exploitation marchande de nos données personnelles, ni sur la captation de notre attention. Une exception qui cultive un esprit ouvert, décentralisé et collaboratif. Ce site est une encyclopédie qui fête cette année ses 25 ans, Wikipédia. Un temps raillé, elle est considérée aujourd'hui comme une source fiable. La preuve, 70% des Français déclarent l'utiliser pour vérifier une information trouvée ailleurs. Son modèle économique est également unique en son genre, puisqu'il repose sur les dons des entreprises et des utilisateurs, et sur le temps précieux offert par des centaines de milliers de contributeurs dans le monde, qui écrivent, débattent et argumentent pour tendre vers la neutralité, l'un des principes fondateurs de ce projet, imaginé en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger. Wikipédia est évidemment loin d'être parfaite, mais c'est une réussite indéniable, bien que menacée. L'encyclopédie est la cible d'attaques politiques et de tentatives de manipulation. Ses détracteurs lui reprochent des biais idéologiques et l'accusent de promouvoir le wokisme. Elon Musk a même lancé Grokipédia, un projet concurrent cherchant à l'absorber avec ses outils d'intelligence artificielle. En quoi Wikipédia peut-elle être considérée comme une utopie en résistance? C'est la grande question posée à notre invité. Rémi Gervais, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif de Wikimedia France, l'association qui soutient Wikipédia en France. Donc, comme son nom l'indique, vous pourrez revenir avec précision sur l'histoire et les rouages de cette encyclopédie. À vos côtés, Jérôme Hergueux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS, professeur associé au Berkham Klein Center for Internet and Society de l'université Harvard. C'est classe. Et auteur du livre Wikipédia ou Imaginer un monde, publié l'an dernier aux éditions Rue d'Ulm. Votre regard sera précieux pour mieux comprendre les enjeux qui attendent cette aventure. Enfin, comme l'avenir de Wikipédia s'écrit sans doute du côté de l'Amérique du Nord, nous serons en direct depuis le Québec avec Nathalie Cazemajor. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut national de la recherche scientifique de Montréal, spécialiste des communs numériques. Et comme toujours, une chronique de Courrier International, notre partenaire qui veille et traduit le meilleur de la presse étrangère avec vous, Sacha Mitchell. Bonjour.
Bonjour.
Votre sujet aujourd'hui?
Alors, porte sur le blocage d'Internet en Iran et ses conséquences sur la diffusion de l'information dans le cadre de la révolte en cours dans le pays.
Et peut-être qu'il sera aussi indirectement question d'Elon Musk avec sa constellation de satellites Starlink. Vous avez le programme complet de l'épisode 20 de la Fabrique de l'Information, cette semaine de résultats médiamétriques qui saluent un succès d'audience historique pour l'antenne, la vôtre, la nôtre, France Culture. Merci pour votre fidélité et votre écoute toujours plus importante en direct ou en podcast sur l'application Radio France. C'est parti.
On est de la même génération et cette génération, c'est la dernière à avoir fait ses études sans Wikipédia.
Ce site que tout le monde utilise a été fondé en 2001 et son ambition initiale, c'était de rédiger une encyclopédie selon un protocole assez traditionnel, mais c'était trop long et trop coûteux à mettre en place et il est remplacé par Wikipédia, une encyclopédie aux règles plus souples et rédigée par des bénévoles.
J'ai découvert que derrière ces pages, il y a parfois un vrai enjeu culturel. C'est le cas d'Aristide et de Mekia, des contributeurs qui se sont donnés pour mission de répertorier les auteurs africains qui n'étaient pas présents sur Internet.
Je travaille à la valorisation de la culture africaine.
Wikipédia est financé principalement par de nombreux dons individuels modiques. Ceci assure que le contenu sur Wikipédia reste neutre et indépendant des intérêts gouvernementaux, d'investisseurs et de publicitaires.
Collège et lycée. Grosso modo, quasiment 9 élèves sur 10 utilisent de temps en temps ou très très régulièrement Wikipédia.
Désormais, l'encyclopédie participative se retrouve prise dans la grande vague de polarisation de l'information accusée de wokisme ou de LFisme par certains.
Alors, Elon Musk vient de lancer son encyclopédie en ligne. Elle s'appelle Grokipédia pour concurrencer Wikipédia.
La principale source de Grokipédia, ça reste Wikipédia. Comme Elon Musk n'a pas pu racheter Wikipédia, il a tout pompé et puis tout passé par la moulinette de son IA baptisée Grok. Et voici comment est né Grokipédia, que je propose de rebaptiser Grokiplagia.
Alors, avant de revenir sur l'origine de Grokipédia, revenons sur l'origine de Wikipédia. En 2001, avec vous, Rémi Gerbet, Wikipédia, ça part d'un succès, en fait, un peu accidentel.
Complètement. À l'origine, Jimmy Wales et Larry Sanger, les deux fondateurs, ont l'idée d'une encyclopédie très classique dans son mode de fonctionnement et sa création. Demander à des experts de rédiger des articles sur leur sujet de prédilection, puis ensuite de faire relire et valider ces articles par un comité d'experts et de relecture avant publication en ligne. Et ce processus s'est avéré en fait extrêmement long. Au bout d'un an, il n'y a qu'une petite vingtaine d'articles en réalité qui sont publiés. Et donc l'idée là, c'est de dire, bon, il faut accélérer un peu le processus, sinon on n'y arrivera jamais. Créons du coup à côté un autre site, Wikipédia, pour servir de brouillon. Ouvrons un peu au grand public pour accélérer le processus et comme ça donner à nos experts une longueur d'avance. Et en fait, ce brouillon a connu un tel succès rapidement qu'il a fini par complètement éclipser et effacer Nupédia, le premier projet.
Ah, c'est intéressant, en fait, c'est le document de travail qui est devenu le projet lui-même.
Ouais, complètement.
C'est assez dingue. Pour bien comprendre, je parlais de Wikimedia tout à l'heure pour nos auditeurs et auditrices, expliquez-nous la différence entre Wikipédia l'encyclopédie et Wikimedia l'association.
Voilà, donc Wikipédia, effectivement, donc c'est l'encyclopédie en ligne qui est améliorée quotidiennement par des bénévoles à travers le monde. C'est cette communauté qui va s'organiser pour définir les règles de gouvernance de l'encyclopédie, définir les articles admissibles ou non, et également effectuer la modération. Wikimedia France ou la Wikimedia Foundation, peut-être qu'on en parlera un peu après, la différence, c'est le mouvement qui est autour, qui est là pour soutenir la communauté, la protéger, mener des partenariats pour libérer de nouveaux contenus culturels, scientifiques, éducatifs, et représenter cette communauté dans le débat public et avec également les institutions.
D'accord, on comprend bien qu'il y a deux notions, une indépendance finalement garantie de l'encyclopédie Wikipédia par Wikimedia, qui est l'association qui la représente, qui l'incarne d'une certaine manière, même si on reviendra évidemment sur les modes de gouvernance qui sont très importants chez Wikipédia, tout comme la notion d'ouverture. Jérôme Hergueux, l'ouverture, c'est vraiment une donnée cardinale du fonctionnement de Wikipédia.
Ouais. Effectivement, si on revient un petit peu sur ce moment de la naissance de Wikipédia, donc à la base, donc ce projet c'était effectivement nommé Nupédia et il était très classique. Donc si on se souvient un petit peu les moins jeunes d'entre nous se rappellent que les encyclopédies à l'époque, il y avait des choses qui s'appelaient Britannica, qui s'appelaient Encarta. Qu'on vendait.
Ah oui, c'était des DVD, des CD-ROM.
C'était des CD, ouais. Voilà, qu'on vendait à prix d'or. Ça coûtait très très cher. Maintenant, je peux le dire, quand j'étais ado, moi, je devais pirater ça. Ça coûtait trop cher. Et puis bon, ça perdait sa pertinence très rapidement parce qu'il fallait les mettre à jour ces bestioles-là. Donc le projet à la base, c'était d'avoir une encyclopédie en ligne qui soit certes dans un modèle très classique, avec revue par les pairs, écrite par des experts et des experts, mais qui aille plus vite, qui soit mise à jour plus rapidement, distribuée avec moins de frais, et donc réduire les coûts. Mais c'était simplement ça la vision, il n'y avait pas mieux. Et en fait, quand ils ont créé, comme le disait Rémi, ce site complémentaire Wikipédia sur la base d'une technologie, le wiki qui avait 5-6 ans à l'époque, qui permettait de modifier directement une page web.
D'où son nom, effectivement, hein, Wikipédia.
Voilà. Wikipédia, wiki qui veut dire rapide en hawaïen. Vous pouviez modifier une page web directement après lecture, quoi, modifier son contenu. Bah, ils se sont dit, on va utiliser ça. Et donc, ils ont designé un système totalement ouvert pour que tout un chacun puisse créer ses brouillons et qui seraient ensuite relus par les experts. Et effectivement, au bout d'un an, c'est pas 20 articles qu'ils ont fait. Wikipédia, il y en avait, au bout d'un an, 20 000 à peu près, et une communauté de plusieurs centaines de contributeurs qui est toujours restée très, très ouverte et dont le succès a surpris les fondateurs mêmes. Wales et Sanger ont, on peut le dire, complètement halluciné du succès du projet, de la qualité de ce qui était produit, du nombre de gens qui étaient très engagés derrière ça. Et d'ailleurs, si on avait demandé à des chercheurs, même en sciences sociales, de parier sur le succès d'un projet comme ça, que des gens pris sur toute la planète avec des avis aussi polarisés puissent se mettre d'accord sur des choses comme le conflit israélo-palestinien, je pense que personne n'aurait mis de pied 7 sur ce genre de choses.
Alors,
donc oui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà la notion de transparence, hein, de la fabrication justement de l'information, des connaissances, des savoirs, hein, puisque vous l'avez très bien rappelé, c'est un brouillon qui en est à l'origine. Et puis on voit aussi cette puissance du collectif, hein, cette intelligence collective, et c'est ce fonctionnement organique, parce que comme vous l'avez dit, c'était pas choisi à la base, c'est presque de manière organique, ça s'est mis en place. Peut-être que si ça avait été souhaité, voulu, il y aurait une forme d'injonction qui aurait fait que Wikipédia n'aurait pas fonctionné. Nathalie Casemajor, on voit que la contribution, le modèle contributif, c'est vraiment ce qui détermine aussi l'identité de Wikipédia.
Oui, effectivement, la contribution ouverte, donc qui permet, en théorie, à tout un chacun de participer. Dans les faits, il faut quand même maîtriser certains codes hein, pour pouvoir participer, pour faire en sorte que les contributions qu'on fait soient acceptées et durables. Mais effectivement, cette ouverture, elle est là. Si on regarde du point de vue de la démographie dans l'encyclopédie francophone, puisque bon, du point de vue du Québec, on regarde aussi voilà comment la contribution à cette encyclopédie est une contribution mondiale. Hein, c'est-à-dire que les encyclopédies sont organisées par langue. Il y a chaque projet est disons semi-autonome. La Wikipédia en français fonctionne avec une communauté de contributeurs et contributrices qui n'est pas la même que celle de la Wikipédia en anglais ou en espagnol. Et donc, voilà, c'est une contribution qui se déroule à l'échelle globale.
Alors, j'ai retrouvé une phrase de Jimmy Wales qui déclare que Wikipédia est comme une saucisse, on aime le goût, mais on n'a pas vraiment envie de savoir comment c'est fait. Il avait déclaré ça en 2004. C'est d'ailleurs conforté par un chiffre, hein, 66% des Français n'avouent n'avoir aucune connaissance des principes fondateurs, c'est-à-dire qu'on l'utilise tous. Alors, avec vous, Rémi Gerbet, peut-être qu'on peut essayer d'ouvrir la saucisse rapidement pour essayer de comprendre la contribution, parce que c'est assez complexe. Il y a quand même des règles, il y a des procédés. On l'a dit, c'est beaucoup de bénévoles, mais qui font ça très sérieusement, il y a une très grande application justement pour devenir contributeur Wikipédia.
Oui, c'est vrai qu'en 25 ans, le processus, il a beaucoup évolué. Effectivement, en 2001 ou 2002, quand il y a tout à faire, disons qu'à ce moment-là, il y avait vraiment plein de dynamiques différentes qui se lançaient. Et puis progressivement, il a fallu rationaliser un petit peu tout ça. C'est un dirait même un peu bureaucratiser un petit peu tout ça. Il a fallu se mettre d'accord sur des règles internes. Qu'est-ce qu'on accepte comme article, qu'on n'accepte pas. Les principes fondateurs, sont ces cinq un peu grands piliers sur Wikipédia, sont apparus assez tôt, finalement, dans l'histoire de Wikipédia. On les rappelle très rapidement. Il y a le côté que c'est une encyclopédie. Ça signifie qu'il y a plein de sujets qui n'a pas sa place sur Wikipédia. Le fait que c'est sous licence libre, donc n'importe qui peut réutiliser le contenu de Wikipédia, même à but commercial. Cette fameuse neutralité de point de vue, qui est souvent mal comprise, et peut-être qu'on aura le temps de revenir dessus un peu plus tard dans l'émission, mais qui paraît fait partie de ces piliers. Le fait qu'il y a des règles de savoir-vivre, donc on est une communauté. Donc effectivement, il y a des règles pour discuter ensemble, échanger, créer du consensus. Et après, le fait que n'importe qui, ou en tout cas, peut rediscuter de nouvelles règles, en mettre de nouvelles, en fonction des sujets, des thématiques, on affine tout ça. Et sur Wikipédia, on va dire, il y a plein de rôles différents, les communautés s'en attribuent par eux-mêmes, il y a certains rôles qui sont, on va dire, un peu plus importants ou un peu plus centraux, ça va être notamment le rôle des administrateurs, donc ce sont des bénévoles élus par la communauté, notamment qui ont ce rôle de, on va dire, de maintenance générale de l'encyclopédie, notamment en termes de contenu ou de lutte contre les vandalismes, par exemple.
Mais donc, ils ont des pouvoirs particuliers, spéciaux, ils peuvent, par exemple, fermer une page ou...
Ils ont des droits supplémentaires, ils peuvent effectivement fermer une page, mais c'est uniquement après... vote de la communauté, donc ils appliquent uniquement la décision communautaire. Par contre, ils peuvent prendre des décisions un peu plus de manière autonome, à savoir des protections de pages, lorsqu'il y a vraiment une lutte d'influence ou une guerre éditoriale, qu'on appelle ça chez nous, des contributeurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un contenu et que la situation s'envenime un petit peu, ils peuvent venir pour protéger la page en écriture pendant un certain temps, et ils peuvent également bloquer des contributeurs, les empêcher d'écrire sur l'encyclopédie, quand ces personnes-là sont arrivées visiblement avec de mauvaises intentions ou ne respectent pas les règles encyclopédie, les administrateurs peuvent les empêcher de venir du coup contribuer.
Jérôme Hergueux, là c'est intéressant, on voit d'ailleurs justement en quoi Wikipédia a aussi un terrain de bataille informationnelle. Alors, on pourra revenir sur les différentes motivations des uns et des autres pour essayer d'avoir la main justement sur le contenu, puisque je l'ai dit en ouverture, c'est quand même il est dans le top 10 des sites les plus consultés encore aujourd'hui sur Internet, donc il a quand même une grande puissance de fabrique aussi de l'opinion. Vous dites, Jérôme Hergueux, que finalement ce sont peut-être les pages où il y a les moins de controverses qui sont peut-être les plus problématiques, parce que les contenus peuvent s'afficher un peu dans un angle mort. Or, lorsque les pages sont très controversées, du coup, on les discute et peut-être qu'à la fin, l'information devient relativement fiable.
Oui. Alors, j'aimerais revenir un petit peu à cette histoire d'ouverture pour faire le lien, rétablir quand même le principe de base. C'est vrai que les règles de contribution se sont beaucoup complexifiées au fur et à mesure du temps, mais Wikipédia reste une communauté absolument ouverte sur la plupart des pages. J'invite les auditeurs à ouvrir n'importe quelle page de Wikipédia. Il y a un bouton « Edit ». Vous pouvez cliquer ce bouton, faire n'importe quelle modification, comme sur un document Word, sauver ça, et c'est live pour le monde. Donc, ça ça.
C'est-à-dire qu'il y a une facilité, il y a une accessibilité. C'est vrai qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, peut-être que même le début de cette émission peut conforter cette idée qu'il faut être un peu expert, un peu geek pour arriver sur Wikipédia. Finalement, n'importe qui peut le faire.
En fait, c'est pas si vrai que ça. On peut éditer ça maintenant comme un fichier texte, comme un Word sur votre ordinateur. Vous cliquez un bouton et le monde entier peut le voir. Et il n'y a vraiment pas plus de filtre que ça. Voilà, donc ça c'est quand même le principe de base et c'est très important de l'avoir à l'esprit. Moi j'aime bien rappeler que Wikipédia c'est un réseau social comme un autre. Ça veut dire que, en fait même plus ouvert que tous les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez des gens qui discutent de sujets d'actualité potentiellement controversés. C'est une plateforme qui agrège des positions des uns et des autres.
Enfin, c'est peut-être le seul réseau social sans captation de l'attention et monétisation des données personnelles.
Tout à fait.
Pour l'instant, on en connaît peu. Il y en a, on en connaît peu d'ailleurs. Il y a peut-être Mastodon. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Tout à fait. Mais c'est aussi un réseau social où vous pouvez contribuer de manière totalement anonyme. Donc, d'une certaine manière, en fait, si on le considère comme ça, sur le plan purement technique, il y a rien qui distingue Wikipédia de Twitter, et Wikipédia est en fait plus ouvert que la plupart des réseaux sociaux commerciaux. Donc à partir de là, de cette ouverture procède la qualité. Les règles de contribution sur Wikipédia, elles tombent pas du ciel, elles sont négociées par les contributeurs eux-mêmes sur des pages qui sont elles-mêmes collaborativement éditées. Vous y avez pas immédiatement accès parce que c'est séparé de l'encyclopédie pour pas mélanger les genres, mais c'est le même process de négociation de comment est-ce qu'on fait les choses. Et ces process-là sont bien pensés, on pourra y revenir, hein, tourne autour d'un certain nombre de principes que Rémi a en partie déjà évoqués. Et donc l'idée, c'est vraiment, plus vous allez avoir de positions diverses qui vont s'affronter, entre guillemets, sur un sujet donné, plus chaque virgule va être pesée, sous-pesée, on va vous demander vos références, qu'est-ce que vous pouvez produire comme source factuelle à l'appui de vos arguments. Et donc, la recette de la qualité sur Wikipédia, c'est un sujet populaire et très controversé. Ça paraît contre-intuitif.
Non, mais on voit bien que ça nourrit le débat, et c'est ce qui fait que les gens doivent... Parce que sur Wikipédia, il faut toujours prouver ses sources, hein, il faut à chaque fois arriver à argumenter source à l'appui. Donc, quand on a une page qui est très controversée, finalement, elle devient très documentée, et ça permet à l'utilisateur de retracer en plus la chronologie des différentes discussions. Nathalie Cazemajor, on a évoqué à l'instant le parallèle avec les réseaux sociaux. Peut-être prenons un parallèle au niveau du modèle économique. Le modèle économique des réseaux sociaux, on le connaît, hein, je l'ai dit, c'est la captation des données personnelles, c'est la monétisation de notre temps d'attention. Quel est le modèle économique de Wikipédia? On sait qu'il y a des dons, on sait aussi qu'il y a des entreprises qui peuvent financer en partie la fondation.
Oui, alors la question du modèle économique, elle est intéressante parce qu'elle a évolué dans les dernières années. Mais si on retourne à l'histoire, en fait, c'est intéressant de noter que quand Wikipédia a été créé, ça a été créé sous le nom de domaine .com. Donc, à l'origine, la vocation commerciale de l'encyclopédie n'était pas complètement écartée des fondateurs, de Jimmy Wales en particulier, mais assez rapidement, la communauté des contributeurs a refusé complètement la vocation publicitaire, parce que ça passait notamment par la monétisation des données personnelles, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui a été refusé. Ça a été un gros clash, en fait. Il y a une partie des contributeurs espagnols qui ont quitté le projet avec grand fracas pour protester contre cette possibilité-là. Donc le modèle économique a très longtemps exclusivement reposé sur les dons, des dons qui sont souvent des petits dons. Donc la plupart des dons qui financent le projet sont des dons de moins de 10 $ qui viennent du monde entier. Et il y a aussi des dons, des plus gros dons, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions de dollars, entre autres de compagnies du web comme Google, Amazon a donné de l'argent. En fait, ils ont tous donné de l'argent, leurs employés ont aussi donné de l'argent. Donc il y a un modèle qui est essentiellement celui du don, mais on pourrait creuser là-dessus. Mais récemment, il y a une entreprise qui a été créée dans la constellation des projets Wikimedia.
Alors vous évoquez de Google, c'est vrai que le nom de cette multinationale revient souvent lorsqu'on parle des grands financeurs de Wikipédia. Nathalie Cazemajor, c'est quoi l'intérêt de Google de donner autant d'argent à Wikipédia ?
Alors, c'est un intérêt majeur. En fait, Google et les autres grandes entreprises du web sont des très gros consommateurs de données ouvertes et Wikipédia et ses autres projets qui tournent autour, dont Wikidata, sont en fait aujourd'hui la principale infrastructure de données ouvertes du web. Donc c'est un volet qu'on voit moins comme lecteur, lectrice, où nous on consulte en fait les pages des articles de l'encyclopédie. Mais en fait, des robots sont les principaux lecteurs de l'encyclopédie et des contenus de Wikipédia. Donc l'idée, c'est de se connecter à cette source de données qui est mise à jour quasiment en temps réel par les contributeurs, contributrices, et de nourrir les graphes de connaissances, donc qui permettent par exemple à Google de répondre à vos requêtes et de plus en plus à nourrir les modèles de langue, les grands modèles d'IA conversationnelle.
Alors on va revenir justement sur ces LLM, mais peut-être juste Rémi Gerbet pour finir sur Google. Il y a une interdépendance finalement entre Google et Wikipédia. Ils ne le financent pas justement juste dans un pur esprit de donateur. Ils sont aussi intéressés par ce que Wikipédia fournit et propose.
Ils sont effectivement très intéressés. Google, comme plein d'autres grandes entreprises de la tech aujourd'hui, notamment effectivement des entreprises de l'IA. Interdépendance, mais pas dépendance du mouvement. Ça a toujours été une ligne quand même rouge. Et Nathalie a déjà parlé effectivement des origines. Mais aujourd'hui encore, dans les stratégies financières du mouvement Wikimedia, il y a l'idée que on va accepter certains dons, notamment provenant de Google ou d'autres, mais ces dons ne doivent jamais servir à couvrir le fonctionnement propre de Wikipédia. On doit pouvoir continuer à gérer les projets et les soutenir sans dépendre de ces financements extérieurs.
Donc de dépendre uniquement des dons des utilisateurs, enfin du moins de la communauté.
Et voilà, essentiellement. Et en fait, ces dons annexes, ils vont dans des fonds de dotation, par exemple le Wikimedia Endowment, qui sert du coup pour la R&D en cas de coup dur, évidemment, ça peut servir à ce moment-là. Et puis, il y a tout un enjeu de négociation à travers effectivement Wikimedia Enterprise, qui est de dire, vous utilisez les données ouvertes, très bien, le projet a été conçu de cette manière-là. Par contre, il y a quand même un respect, une reconnaissance à avoir vis-à-vis des communautés qui ont bâti ce socle de connaissances ouverte. Et cette reconnaissance, elle peut passer, pas uniquement, elle peut passer par ce type d'accord. Et j'aimerais juste terminer sur une petite remarque sur la question des réseaux sociaux et du comparatif réseaux sociaux Wikipédia. Effectivement, on a évoqué le fait que les réseaux sociaux actuels sont connus pour le côté capter l'attention, le revendre de données, etc. Il y a un autre aspect, je trouve, qui est important de mentionner, c'est que Wikipédia fonctionne sur le temps, sur deux timings. Il y a le timing réactif, on en a parlé quand il y a des sujets d'actualité, on va avoir des contributeurs qui vont effectivement échanger à un rythme très soutenu pendant un temps, mais Wikipédia, c'est aussi le temps long. Et souvent, des fois, on a un peu tendance à l'oublier dans notre société, lorsque l'on critique un article Wikipédia qui n'est pas à jour ou qui serait biaisé à un instant T, c'est oublier que Wikipédia, c'est un projet de temps long. On n'est pas dans la réactivité tout le temps et c'est un projet qui se construit brique par brique, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est toujours extrêmement important de rappeler. Et les
d'où l'encyclopédie, hein, parce que l'encyclopédie, c'est quand même plus l'objet du temps long. Wikipédia n'est pas un site d'actualité.
Et les discussions sur Wikipédia doivent avoir pour principal objet les discussions sur le contenu de l'encyclopédie. On ne discute pas de la pluie et du beau temps. On est là pour discuter du contenu. On débat de la façon dont on va agencer l'article, de la façon dont on va effectivement ajouter de nouvelles références. On ne discute pas de ce qu'on a fait ce midi ou du plat qu'on va manger ce soir.
Par rapport, voilà. Et avant de donner la parole à Jérôme, par rapport aux dons des grandes entreprises, est-ce qu'il y a des notions éthiques, par exemple? Est-ce que vous acceptez des dons de toutes les entreprises? Si une entreprise comme Palantir, pour citer, je pourrais aussi citer d'autres, hein, c'est-à-dire qui sont engagés militairement, par exemple, et qui aimeraient donner de l'argent à Wikipédia, vous l'acceptez?
Alors, à Wikimedia France, on a, nous, une charte du mécénat et on a listé des secteurs d'activité sur lesquels Wikimedia France, nous en tout cas, on va refuser ce type de soutien. La fondation Wikimedia a parfois sa propre stratégie, et là j'avoue, je ne sais pas si la fondation accepterait ce type de don.
Et on rappelle aussi au passage que Google se sert aussi des contenus issus de Wikipédia pour nourrir notamment les pages, les descriptions de son, oui, de son autre site, hein, YouTube, qui appartiennent évidemment à Google. Jérôme Hergueux.
Oui, je voulais juste pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit avec cette histoire de dons. Ces dons ne servent jamais à rémunérer les contributeurs. C'est très très important d'avoir ça en tête.
Il reste des bénévoles.
Les contributeurs sont tous des bénévoles. D'ailleurs, il y a une règle communautaire qui dit qu'on ne doit pas être payé pour contribuer à Wikipédia, c'est très important, ou alors il faut le déclarer en amont. Donc les contributeurs sont toujours des bénévoles. Les dons, ils servent à financer la fondation qui soutient le projet. Et là, les droits de propriété sont très très clairs. La fondation, elle est là pour développer l'interface, pour que l'interface soit bien, pour que les gens puissent contribuer, à payer les serveurs et éventuellement à payer une protection juridique s'il y a un problème sur le projet, voire même une menace sur un contributeur. Par contre, le contenu, la fondation n'y touche jamais. Et si elle devait s'avérer changer cette politique, elle se prendrait un retour de bâton énorme de la communauté qui tient à ça dur comme fer. Depuis le début, la fondation ne met pas ses mains dans le contenu. Le contenu appartient à la communauté des contributeurs.
À de rares exceptions, quand même, pour préciser quand même, la fondation étant responsable légale. Évidemment, si demain il y a un procès sur le contenu, là, la fondation peut être amenée à prendre ce qu'on appelle des office actions, c'est-à-dire une intervention mesurée sur un article pour supprimer un contenu, mais uniquement sur décision de justice, évidemment. Sinon, comme l'a très bien dit Jérôme, la fondation ne touche pas au contenu.
Nathalie Cazemajor.
Oui, là-dessus, c'est aussi important de rappeler que la fondation donc n'est pas propriétaire du contenu au sens des licences en fait de contenu, donc dans le modèle d'entreprise qui a été créé, ce qui est vendu aux entreprises et aux organisations qui souhaitent utiliser les contenus, c'est pas un contrat de licence. Et ça, c'est difficile à comprendre justement pour des entreprises comme Google quand ils négocient, de comprendre que ben non, en fait, on n'est pas propriétaire des contenus. Ben comment ça, comment vous pouvez nous contracter? En fait, ce sont des contrats de service qui sont offerts, puisque chaque personne qui contribue est propriétaire du droit sur chaque virgule qu'il a mis dans l'encyclopédie. Donc cette distribution collective de la propriété, c'est un modèle quand même très particulier au projet Wikimedia. Et quand Wikimedia Enterprise contracte avec des entreprises qui est monétisé, donc ce n'est pas le contenu lui-même qui reste gratuit, accessible et ouvert pour tout un chacun, mais c'est le flux. C'est le flux des données, puisque ces entreprises pompent les données à un volume gigantesque. Et l'effet, c'est que ça ralentit la connexion pour les utilisateurs humains. Et donc, l'idée, c'est de faire contribuer, y compris financièrement, ces entreprises qui pompent la ressource pour maintenir le projet, pour maintenir les infrastructures et continuer à servir des connaissances pour des utilisateurs humains.
Et puis on sait très bien aussi que Wikipédia, puisque parler de flux, amène énormément de trafic sur Internet. Et lorsqu'on est Google, on a quand même intérêt aussi à ce qu'il y ait un site aussi attractif que Wikipédia pour que les gens aillent sur Internet. Et bien souvent, la porte d'entrée pour aller sur Internet, ça reste encore aujourd'hui Google. Juste pour rester aux États-Unis, qu'est-ce qui explique, Nathalie Cazemajor, qu'une personnalité comme Elon Musk aujourd'hui s'en prenne violemment à Wikipédia?
Alors, ça fait partie, je pense, de son retournement politique et idéologique. Wikipédia a cette particularité que c'est une source d'information qui est autogérée, donc qui n'est pas contrôlable par des moyens habituels qui seraient le rachat d'une entreprise comme il l'a fait avec Twitter. Donc, on ne peut pas contrôler le contenu. Alors, c'est aussi une attaque, je pense, contre un modèle organisationnel et politique qui n'est pas pyramidal comme celui de l'entreprise ou d'une organisation politique avec un chef. On a rappelé l'histoire dès le départ, un peu du sacrifice du chef au départ. Il y avait un éditeur en chef qui était Larry Sanger. Et donc, voilà, on a coupé la tête du roi assez rapidement dans Wikipédia. Et donc, ce modèle très horizontal, très décentralisé, je veux dire, il est contre une conception du pouvoir au sein des organisations qui seraient pyramidales avec un chef en haut qui décide.
Oui, vous avez raison de rappeler que Larry Sanger a quitté très vite l'aventure Wikipédia et on reviendra aussi peut-être sur les critiques qu'il a pu formuler à l'endroit de cette encyclopédie dont il reste, le cofondateur, du moins c'est ce qu'il a écrit sur Wikipédia, donc forcément je le crois. Vous parliez de revirement, Nathalie Cazemajor, c'est parce qu'Elon Musk a été un temps un donateur aussi.
Oui, un très gros donateur. En fait, sa fondation a donné plus d'un million de dollars, enfin plusieurs reprises, des dons subséquents, importants à la fondation. Et en fait, bon, quand il s'est engagé dans le mouvement MAGA, bon, il a suivi, je pense, il a suivi le courant, hein, de manière assez pragmatique, et taper sur Wikipédia, ça faisait partie des options qui étaient offertes à lui. Mais très longtemps, en fait, il a célébré Wikipédia. Il y a eu aussi un moment, je veux dire, de vexation personnelle probablement, quand son article a fait état, l'article à son sujet dans Wikipédia a fait état des controverses au sujet du salut nazi qu'il a manifesté.
Même s'il était déjà, il avait déjà attaqué Wikipédia précédemment, même plusieurs années auparavant, Rémi Gerbet. Comment on peut expliquer, encore une fois, cette même question, pourquoi Wikipédia est dans la cible de Elon Musk? C'est juste parce qu'il veut pas racheter Wikipédia, parce que finalement Wikipédia est invendable, n'est pas à vendre d'ailleurs, et puis il ne pourrait pas le faire. C'est juste ça, ou il y a peut-être d'autres choses?
Je rejoins totalement Nathalie. Je pense qu'il y a certes une question personnelle chez Elon Musk. Il y a eu une petite rivalité aussi avec Jimmy Wales, etc. Donc il y a un affect derrière ça. Et puis il y a cette dynamique enclenchée depuis maintenant quelques années, qui est cette lutte informationnelle, guerre informationnelle que l'on voit s'exprimer un peu partout, cette lutte pour contrôler le récit, et Wikipédia fait partie, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, de ces cibles pour la base, en tout cas pour le groupe MAGA aux États-Unis, mais aussi pour des dictatures à travers la planète et différents groupes radicaux. Donc il y a cette volonté d'arriver à imposer son récit, imposer sa vision des choses. Et Wikipédia, par son rôle central aujourd'hui comme espace public numérique auquel tout le monde se raccroche, est forcément du coup un enjeu de lutte d'influence.
Parce que c'est peut-être un des rares espaces qui échappe justement au contrôle du récit, comme vous venez de le rappeler, Jérôme Hergueux.
Oui, bah c'est vraiment ça. Pour des gens qui veulent contrôler l'information, Wikipédia, c'est très très frustrant. Vous pouvez pas l'acheter, vous pouvez mettre 40 milliards sur la table, personne peut vous le vendre. Vous avez pas de numéro de téléphone à appeler pour faire pression si vous voulez changer telle ou telle information. C'est un modèle totalement distribué. Donc en fait, vous pouvez pas le contrôler, que ce soit par des moyens financiers, par des moyens politiques. Vous pouvez juste pas y arriver. Alors d'autres gouvernements ont essayé, la Chine, la Russie, et ils y arrivent pas non plus. Donc
alors la Chine, je crois que Wikipédia est interdit.
Bloqué depuis 2019.
Voilà. Et en Russie, ils ont voulu créer leur propre Wikipédia.
En Russie, ils ont... Alors, traditionnellement, le gouvernement russe avait des agents. Hein. Ils ont d'abord essayé d'infiltrer, donc d'avoir des contributeurs payés. Ça, maintenant, c'est documenté. Mais ça ne marche pas non plus. Parce qu'à partir du moment où vous avez une masse critique de gens qui discutent et qui délibèrent, vous n'arrivez pas à contrôler l'information. Et donc, ce qu'ils ont fait à partir de janvier 2024, comme Wikipédia a une infrastructure libre, on l'a déjà dit, en fait, ils ont tout simplement dupliqué l'ensemble de la plateforme. Ils ont appelé ça RuWiki. Ils ont concentré leur activité sur quelques milliers de pages, hein, sur l'ensemble de Wikipédia. C'est une minorité, mais du coup c'est très intéressant parce qu'en faisant la comparaison, Vladimir Poutine nous donne l'ensemble de son programme et de ses priorités politiques, et ils sont concentrés sur les pages liées au sujet LGBTQ+, le nazisme, le rôle de la Russie dans la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'Ukraine, ce genre de choses-là. Et donc du coup ils ont complètement dupliqué l'infrastructure, mais Wikipédia est toujours live en Russie à l'heure actuelle. Alors on ne sait pas quel est le but final au niveau du Kremlin. Est-ce qu'à la fin
on dit live, c'est disponible, hein, c'est-à-dire que
elle est ouverte, on peut y accéder. Donc c'est pas comme en Chine où ils ont fini par
la bloquer
totalement, alors qu'avant ils bloquaient de manière périodique quand il y avait des problèmes. À partir de 2019, ils ont assumé leur société civile en réseau, on lui coupe les jambes. En Russie, ils l'ont pas encore fait. Donc est-ce que à terme ils veulent enlever la prise de Wikipédia en russe? Est-ce que c'est ça l'objectif? Ou est-ce que l'objectif, c'est potentiellement d'entraîner des IA? Parce que Wikipédia est central pour le développement des IA. Hein. Quand on dit que c'est un des top 10 des sites mondiaux, ça ne prend pas en compte l'ensemble de l'information issue de Wikipédia qu'on consomme, pas sur Wikipédia, par exemple, en posant des questions à ChatGPT. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais potentiellement, ça peut être un des objectifs du Kremlin, de vouloir entraîner ses propres IA dans un monde informationnel parallèle qui serait en ligne avec leurs objectifs politiques et leurs narratifs.
Nathalie Casmajor, vous souhaitiez réagir ?
Oui, là-dessus, sur les types d'influence, de pouvoir de nuisance des gouvernements, bon, étant donné qu'on ne peut pas contrôler le contenu d'une manière classique, ce qu'on a vu quand même l'année dernière de la part du gouvernement américain, c'est une attaque sur une menace sur la source de revenus qui est le don, hein, qui est voilà, l'essentiel du revenu collecté par la Fondation, au sens où il y a une lettre qui a été envoyée de la part d'un comité de la Chambre des représentants, donc contrôlé par le Parti républicain aux États-Unis, qui demande des comptes sur la neutralité, donc on en parlait tout à l'heure, en alléguant qu'il y a un biais organisé dans l'encyclopédie et en menaçant de couper le statut de charity, donc d'organisme de bienfaisance. Mmh. Donc c'est un peu le même type d'attaque qu'on a vu contre des grandes universités comme Harvard, par exemple. C'est-à-dire menacer la source de revenus principale en révoquant le statut d'organisme de bienfaisance. Donc ça, c'est un type d'attaque qu'on a vu. Et un autre type d'attaque, en fait, de menace, hein, c'est un PowerPoint qui a fuité de la part de personnes liées à projet 2025. Donc le think tank qui était... Oui, voilà, le think tank qui était derrière la campagne présidentielle de Donald Trump, où en fait, il y avait carrément un plan d'attaque personnalisé contre des Wikipédiens avec des moyens techniques très développés pour aller trouver l'identité de contributeurs anonymes qui contribuaient sur des sujets avec une orientation contraire aux intérêts du mouvement MAGA. Donc là, c'est quand même des choses assez inquiétantes quand on va cibler comme ça des contributeurs.
Alors on va parler justement du ciblage des contributeurs dans un instant. Puis on peut aussi dire que Elon Musk avait encouragé tout le monde à ne plus contribuer à Wikipédia, notamment tout son réseau de la tech. Et on voit cette nouvelle stratégie finalement de l'administration Trump qui n'est plus de faire un écran de fumée en mettant de la confusion par rapport aux sources qui émettent du savoir. Vous parlez de la science et là en l'occurrence de Wikipédia, mais d'essayer de détruire tout simplement l'émetteur lui-même.
France Culture.
Tu fais plus jamais ça, ok ?
La fabrique de l'information.
Wikipédia.
François Celtiel.
Et depuis le début de cette émission, on revisite. Alors, on a parlé du fonctionnement de Wikipédia, qui est pas toujours accessible, compréhensible. On a essayé justement d'y parvenir pour ensuite aborder sa dimension plus politique et les critiques qui peuvent être formulées à son endroit. Nous sommes en compagnie de Nathalie Cazemajor depuis le Québec et professeure à l'Institut National de Recherche Scientifique de Montréal, avec Jérôme Hergueux, qui est l'auteur du livre Wikipédia ou Imaginer un monde aux éditions Rudune, mais avec vous, Rémi Gerbet. Je le rappelle, vous êtes le directeur exécutif de Wikimedia France, donc l'association qui protège cette encyclopédie en France. Et puis cette Wikimedia, bien sûr, existe dans tous les pays du monde. Restons en France. On a parlé un peu de la Russie, de la Chine, des États-Unis. Là aussi, en France, il y a des débats, il y a des controverses, il y a des polémiques autour de Wikipédia, qui est lui aussi accusé d'orientation, justement, politique. On parle de wokisme, d'orientation qui serait un peu trop à gauche selon certaines personnes et notamment la presse, puisque le journal Le Point a fait une déclaration l'an dernier. Il y avait une polémique avec un des contributeurs qui a été visé.
Oui, oui, il y avait eu toute une série d'articles effectivement pour dénoncer ce que le magazine Le Point a appelé effectivement la dérive idéologique de Wikipédia. En réalité, les mécanismes que l'on voit à l'œuvre aux États-Unis, on les retrouve sous une forme peut-être un peu plus européenne, mais en fait en France et ailleurs. Et cette mécanique qui est de dire comme nous ne parvenons pas à imposer une vision ou un récit, alors comme le projet 2025 le mentionnait aux États-Unis, on va cibler les contributeurs. C'est exactement ce qu'on a vu à cette occasion. Le magazine, à travers son journaliste, avait vraiment pris comme option de cibler un contributeur.
Mais qu'est-ce que reprochait exactement le journal ?
Le journal reprochait effectivement une présentation de la ligne éditoriale du Point biaisée, selon eux, sur la page Wikipédia concernant. Le fait que la page en elle-même puisse être grandement amélioré, n'a pas longtemps fait débat dans la communauté. Beaucoup ont dit oui, effectivement, il y a peut-être des choses quand même à remettre à jour, il y a peut-être des faits à repréciser.
Donc la page n'était pas parfaite, mais comme de nombreuses pages, j'imagine, sur Wikipédia qui sont toujours en cours de travail, en cours de perfectionnement.
Exactement. Donc en fait, le débat, la communauté s'est vite mis d'accord pour dire ok, effectivement, il faut améliorer les choses. Ce qui a profondément choqué à la fois la communauté et le mouvement de manière globale, c'est en fait la méthode qui a été employée, qui est vraiment cette méthode d'aller cibler les contributeurs qui étaient actifs sur cette page pour globalement leur faire peur, leur dire arrêtez de contribuer à cette page-là, sinon on va révéler qui vous êtes, où est-ce que vous habitez, quelle est votre profession, etc. etc. Et ça, je rejoins du coup les questions qu'on a eues un petit peu avant. Si Wikipédia, effectivement, le contenu en lui-même est difficilement achetable, etc., en revanche, la communauté, si on fait partir cette communauté, c'est là où il y a un risque, à un moment donné, de noyautage et de prise de contrôle de l'encyclopédie. Et on a eu un cas probant, voilà, merci, avec le cas de la Wikipédia en croate, qui, effectivement, avait vu sa communauté décroître au point qu'un groupe d'extrême droite avait fini par noyauter complètement, prendre le contrôle sur cette version linguistique de l'encyclopédie, obligeant la fondation et à intervenir. Donc c'est la masse communautaire, c'est le meilleur rempart que l'on a face à des tentatives d'influence sur l'encyclopédie.
Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, on voit que ce qui fait la force de Wikipédia, ce sont aussi pour l'encyclopédie ses points de fragilité. C'est-à-dire que ce qui fait la force, c'est l'ouverture. On voit que cette ouverture peut être reprise, copiée, dupliquée. Vous l'avez évoqué en Russie, ensuite pour le biaiser. On pourrait dire la même chose de Grokipédia qui va avaler tout le contenu de Wikipédia. Et puis donc ces contributeurs qui sont bénévoles, mais donc ils sont aussi vulnérables. Donc les contributeurs, Jérôme Ergueux, c'est aussi un point de vulnérabilité pour celles et ceux qui aimeraient attaquer le projet et l'encyclopédie.
C'est le point de vulnérabilité. Comme je le disais avant, l'ouverture, c'est la garantie de la fiabilité sur Wikipédia. C'est contre-intuitif, mais c'est clairement ça la règle. Et donc, à partir du moment où vous avez une masse critique de gens avec des opinions polarisées qui sont motivées pour entrer dans cette négociation collective sur la production de ce contenu encyclopédique, vous avez la recette de la qualité. Si vous faites peur aux contributeurs individuels par des pressions politiques ou autres et que la communauté s'en va, à ce compte-là, effectivement, vous pouvez avoir des biais. Donc, pour revenir sur cette question du point qui accusait certains contributeurs d'être biaisés, de pas être neutres, etc. En fait, ça, c'est une approche, un débat qui est absolument aucun sens. Je veux vraiment insister là-dessus. On ne peut pas prendre des contributeurs individuels et les accuser d'être biaisés. Tout contributeur individuel est biaisé.
Bien sûr, il a des valeurs, il a une vision du monde. Et on peut comprendre aussi peut-être parce que ces contributeurs sont aussi faillibles. Ils ont peut-être même parfois des intentions. Donc on peut imaginer qu'un contributeur aura envie de voir le monde ressembler à son image ou ressembler à sa vision idéologique. Alors j'imagine que c'est là où justement il y a la discussion qui vient rétablir, corriger par l'argumentation cette intention.
C'est ça. Et donc, on disait au début de cette émission qu'un des piliers de Wikipédia, c'est la neutralité du point de vue. Ce critère de la neutralité du point de vue ne s'applique jamais aux contributeurs individuels. Ce serait illusoire et ridicule de le croire. Même un journaliste vient, quand il vient dans son studio, il vient avec ses propres biais, ses propres opinions, et il fait de son mieux pour maintenir une neutralité axiologique quand il discute.
Du moins, il essaye d'être honnête par rapport au fait qu'il présente.
Exactement. Bon, sur Wikipédia, c'est le jeu des arguments contradictoires qui fait la neutralité du contenu à la fin. Donc cet argument de neutralité, il s'applique au résultat des délibérations collectives, pas aux contributions individuelles. Et c'est là que le point se trompe manifestement de débat. Ensuite, est-ce que Wikipédia est de gauche? En fait, on a de la science sur la question, parce qu'on sait évaluer en fonction du langage qui est utilisé les biais qui seraient éventuellement présent ou pas sur l'encyclopédie, et la réponse c'est que Wikipédia est légèrement de centre-gauche.
Alors voilà. Quand vous dites justement de gauche, c'est par rapport au vocable utilisé?
Par rapport au vocabulaire utilisé. Donc ça, on peut le mesurer. Je vais pas rentrer dans tous les détails des stratégies de recherche sur le sujet, mais c'est très simple. Pour vous donner une idée de ça, en fonction du vocabulaire que vous utilisez, si vous êtes plutôt de droite, vous allez parler par exemple de charges sociales. Si vous êtes plutôt de gauche, vous allez parler de contributions sociales. Bon, ça donne tout de suite une espèce de coloration idéologique à votre propos. Quand on mesure ça à très large large échelle sur Wikipédia, on trouve qu'en fait, Wikipédia est plutôt centrale et donc plutôt neutre. Donc, il n'y a pas de wokisme absolu sur Wikipédia, ça n'existe pas. Et à partir du moment où vous avez cette masse critique, les procédures sont telles que Wikipédia ne crée pas de la polarisation, du dissensus, et donc vous ne bougez pas sur les extrêmes, mais elle crée de la convergence et du consensus au niveau du contenu, mais aussi au niveau des contributeurs. Mmh. C'est-à-dire qu'on a montré que dans le temps, et ça c'est important, contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, encore une fois j'insiste, Wikipédia est un réseau social, au fur et à mesure que les contributeurs restent sur Wikipédia et sont exposés aux points de vue contradictoires des autres, leur propre biais au niveau individuel a tendance à s'effacer dans le temps. Donc les contributeurs, à force d'être dans ce processus-là, ont des opinions qui se rapprochent les unes des autres. Et ça, c'est important de le dire.
Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est justement l'antithèse des réseaux sociaux marchands classiques, puisque les réseaux sociaux marchands classiques, c'est ce qu'on appelle la bulle de filtre, ouais. Où finalement notre vision du monde va être confortée par ceux qui la partagent. Donc il y aura un effet de renforcement. Et ce que vous nous dites là, c'est que finalement, si on est confronté à des gens qui ne pensent pas comme nous, on aura tendance, évidemment, à moins se radicaliser sur ses positions, puisque à trouver, allez, un petit terrain de convergence. Vous souhaitiez réagir, Nathalie Cazemajor?
Oui, tout à fait, mais je souscris à ce qui a été dit par Jérôme. Je voudrais souligner tout de même qu'il n'y a pas d'homogénéité à l'intérieur même de chacune des encyclopédies dans les différentes langues, mais qu'en fonction des langues, en fait, la couleur, les tendances politiques peuvent être différentes. Donc, il y a eu d'autres études scientifiques aux États-Unis en 2017 qui penchaient plutôt, alors là, pour la Wikipédia en anglais, en disant que c'était plutôt de centre droit. Il y a eu d'autres études qui regardaient au niveau des articles, en fait, en disant, mais en fait, ça dépend des articles. Les articles politiques sont plutôt centre gauche, mais les articles sur l'immigration sont plutôt vers la droite. Donc c'est très difficile de trancher étant donné la manière dont fonctionne la contribution, le fait qu'il n'y a pas de ligne éditoriale homogène. Et puis si on regarde les accusations de wokisme, par exemple, sur l'encyclopédie en français, si on regarde un marqueur comme l'écriture inclusive, qui pourrait être vu comme un marqueur de wokisme, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été accepté au sein de la communauté francophone de Wikipédia. Donc on voit que sur des sujets assez marquants comme ça, l'accusation de wokisme en tout cas ne tient pas sur plusieurs de points concrets qui pourraient être identifiés.
Et aussi bien sur la langue que sur les termes, vous de là où vous êtes placé, donc en Amérique du Nord, il y a aussi des débats concernant les Amérindiens par exemple, qui sont des débats qui sont assez pertinent pour évoquer notre discussion.
Oui, c'est ça. Donc, alors là, on rentre dans la discussion au sujet des biais systémiques. Et si on compare ce qui est la manière dont l'encyclopédie anglophone et francophone traite cette question des biais systémiques, on voit quand même une différence qui est assez marquée. C'est-à-dire que dans l'encyclopédie anglophone, il y a une reconnaissance plus affirmée de l'idée qu'il y a un biais ou tout du moins une orientation anglo-américaine dans les contenus des articles. Du côté de la Wikipédia en français, c'est beaucoup plus débattu. C'est-à-dire que le fait même de dire qu'il y aurait une orientation franco-centrée, comme disent parfois les Wikipédiens, c'est-à-dire centrée sur le point de vue national et culturel de la France hexagonale, juste le fait de dire ça, c'est parfois vu comme de la non-neutralité, donc de simplement soulever le fait qu'il pourrait y avoir des biais systémique dans la manière dont le savoir est représenté dans l'encyclopédie. Donc assez rapidement on tombe dans des discussions épistémologiques. Qu'est-ce que le savoir? Est-ce qu'il est situé nationalement? Comment on négocie cette pluralité culturelle et linguistique au sein d'une encyclopédie qui est francophone et donc mondiale?
Rémi Gervais, juste pour conclure sur ces accusations, c'est vrai que quand on en a parlé un petit peu parlé tout à l'heure, le cofondateur de Wikipédia, Larry Sanger lui-même, qui parle de parti pris idéologique et religieux de Wikipédia qui est pour lui réel et troublant. Alors c'est peut-être pas surprenant parce que dès le départ il y a eu un point de discorde, mais ça donne du poids justement à ceux qui le critiquent.
Oui, malheureusement. Et je pense que c'est peut-être un de nos enjeux futurs, si on se projette un peu sur l'avenir. En 25 ans, Wikipédia, effectivement, a gagné en fiabilité, a gagné en reconnaissance, a gagné tout simplement ce pari initial. Mais on voit bien que sur certains aspects très précis du fonctionnement de l'encyclopédie, notamment là, le traité de point de vue, on a encore du mal à expliquer, en fait, ce mécanisme Wikipédia. Le traité de point de vue, ça a été très bien expliqué ici, c'est au lieu de gommer les différences ou effectivement que chacun reste dans son coin avec ses idées préconçues, on est là effectivement comme dans un vrai espace public numérique où on se confronte les idées les unes aux autres et on travaille ensemble à trouver du coup un consensus éditorial, vraiment un consensus éditorial. On est vraiment sur l'idée de construire une encyclopédie. Et je pense que c'est un sujet important. On est là pour documenter les différences, pas les gommer. On est là pour les montrer qu'il y a débat sur un sujet. On est là pour vraiment informer le lecteur des discussions en cours autour d'une thématique. Et ça, on voit bien qu'aujourd'hui, on a du mal à expliquer le fonctionnement de l'encyclopédie au grand public de manière générale. Ce qui le rend, du coup, je pense, les personnes sensibles à ces arguments. Ça marche parce qu'en réalité, la mécanique de Wikipédia est encore trop méconnue malgré l'usage important que l'on en fait.
Alors, ce que je me disais en préparant cette émission, c'est, on le voit d'ailleurs les chiffres, les contributeurs, il faut continuer à nourrir justement cette armée, mais ce n'est pas du tout un terme belliqueux qu'il faut employer du côté de Wikipédia. Donc, c'est Wikipédiens qui sont en nombre qu'il faut préserver. On voit qu'aujourd'hui, l'accès peut être qui commence à s'installer dans l'accès à la connaissance, c'est aussi les LLM et donc ChatGPT. Donc, on va peut-être arriver à une génération même de jeunes qui vont pas aller sur Wikipédia pour s'informer, mais qui vont directement aller sur ChatGPT, qui n'auront donc pas la pratique du Wikipédia, la connaissance. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de voir Wikipédia disparaître des usages? Et donc, la conséquence serait, si on ne sait pas comment ça marche et qu'on ne l'utilise pas, on aura moins tendance à vouloir y aller en tant que contributeur. Jérôme Hergueux.
Oui, alors... Le pari de la création du contenu et de l'établissement d'une réputation pour Wikipédia pour la qualité de son contenu, celui-là il a été gagné. Par contre, le pari de la compréhension de la manière dont Wikipédia fonctionne dans le grand public, comme ça a été dit, celui-là il est pas vraiment gagné. Donc les gens comprennent pas forcément comment Wikipédia fonctionne. Et donc à partir de là, oui.
C'est surtout ce que je disais, c'est que s'ils l'utilisent pas, si maintenant on va aller sur, et puis il y a quand même des différences fondamentales entre ChatGPT et Wikipédia. ChatGPT va nous livrer une vérité sans forcément citer ses sources, en disant voilà comment ça se passe ou voilà ce qu'il faut penser. Alors que Wikipédia, et là je pense qu'on l'a bien expliqué, si on s'intéresse même à la manière dont les pages sont construites, on va avoir une diversité justement de sources qui est quand même largement plus pertinent lorsqu'on veut s'informer. Et donc si on a cette tendance à aller vers ChatGPT qui lui-même profite à plein de Wikipédia, puisqu'il n'y aurait pas de ChatGPT s'il n'y avait pas Wikipédia. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là dans les pratiques? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour Wikipédia d'arriver à faire comprendre comment il fonctionne et en quoi c'est important justement qu'il y ait des contributeurs?
Ce que je veux dire par là, c'est que Wikipédia, c'est fondamentalement une information que personne ne contrôle. Donc c'est une infrastructure d'information qui est totalement décentralisée. Et donc ça, c'est à la fois une garantie de qualité, mais aussi une garantie d'indépendance et de neutralité. Donc les LLM, les intelligences artificielles, utilisent le contenu de Wikipédia pour proposer des solutions. Donc le risque, c'est que les gens se reportent majoritairement, massivement, et c'est ce qu'on est en train de voir. Vers ces intelligences artificielles pour avoir les réponses et pas directement sur Wikipédia. Le problème, c'est qu'à terme, quand tout le monde se sera déshabitué à aller chercher l'information sur Wikipédia, vous retrouver avec une intelligence artificielle qu'une entreprise contrôle.
Ben oui.
Et donc là, on est dans un mouvement des enclosures numériques, de l'information, qui est potentiellement très dangereux à terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la porte d'entrée de l'accès à l'information et au savoir de l'humanité va être contrôlée par 3 entreprises dans le monde qui opèrent les grands modèles de LLM et d'intelligence artificielle, on va avoir un gros problème sur notre capacité à délibérer collectivement, à accéder à de l'information, à faire société, et donc c'est une menace sur nos démocraties. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Wikipédia, c'est aussi un pilier de notre capacité à faire société en démocratie, justement du fait de ce non-contrôle et de cette décentralisation. Et donc l'IA, ça, c'est un des risques majeurs, en plus de scier la branche sur laquelle elle est elle-même assise, parce qu'au fur et à mesure qu'elle va assécher la communauté des contributeurs en les renvoyant pas, à terme, l'intelligence artificielle qui absorbe ces contenus risque de perdre sa pertinence à long terme.
Voilà, d'où l'intérêt justement de rappeler le fonctionnement et l'importance justement de Wikipédia pour continuer à faire vivre cette encyclopédie. C'est pas non plus anodin et un hasard si en Iran, par exemple, Wikipédia ou Internet, tout simplement, est bloqué et coupé pour nuire à l'information libre. Sacha Mitchell, c'est votre chronique, puisque avec vous, on part en Iran et ce blackout depuis le 8 janvier en pleine révolte contre le pouvoir.
Et oui, plus d'une semaine que l'Iran est coupé, débranché du reste du monde. C'est comme vivre en pleine zone blanche, schématise l'expert iranien des droits numériques Amir Rachidi auprès du quotidien britannique The Guardian. La coupure, d'une précision déconcertante, serait à ce stade la pire de l'histoire du pays. Pour vous donner une idée, selon des informations du Financial Times, même le ministère des Affaires étrangères a été au moins temporairement coupé du réseau. Alors ce blackout, le régime de Téhéran le justifie par la nécessité d'empêcher, je cite, des terroristes, agents de l'étranger, de semer le chaos dans les rues. En réalité, il s'agit de mater la révolte à l'abri des regards, corrige le média Iran International basé à Londres. Depuis le début de la contestation fin décembre, d'abord contre l'inflation et désormais résolument contre le régime, entre 3000 et 12 000 personnes auraient été tuées, selon les différents décomptes.
Et dans les rares images insoutenables qui nous proviennent, on voit ces sacs mortuaires, même le sol. Comment elles ont été transmises, ces images-là, d'une morgue du côté de Téhéran?
Alors, si vous voulez, l'Internet iranien est déjà fortement cadenassé en temps normal. Comme en Chine, l'accès à certains sites est filtré ou interdit. Et sur la version iranienne de Wikipédia, Persian Wikipedia, pour ne citer qu'elle, les informations sont réécrites, voire carrément censurées. Baptisé réseau d'information nationale et construit de longue haleine par le régime, cet Internet iranien, il fonctionne en fait presque exclusivement en vase clos. Comme l'explique le Financial Times, il n'existe que deux conduits, deux canaux reliant l'Iran au reste de l'Internet mondial. C'est plutôt facile dans ces conditions d'interrompre le flux en cas de crise. Mais si le régime avait tout prévu, les activistes iraniens aussi ont anticipé le coup. Depuis quelques années, des dizaines de milliers de petites paraboles inondent le pays. Ces terminaux, comme on les appelle, acheminés sous le manteau depuis les pays voisins comme l'Arménie ou l'Irak, permettent de se connecter au système satellitaire Starlink de l'américain Elon Musk. C'est en partie donc grâce à cette technologie que les vidéos des massacres ont pu parvenir au reste du monde et en premier lieu, aux médias persanophones comme Iran Wire installé à Londres, Independent Persian à New York et Radio Farda à Prague. Et ce sont ces médias d'ailleurs que nous utilisons à Courrier International pour rendre compte de la situation sur place.
Alors le régime a durci la législation sur la détention justement du matériel Starlink.
C'est ça, une loi de juillet 2025 interdit à quiconque de posséder un terminal et les contrevenants risquent gros, 10 ans de prison, voire pire dans les circonstances actuelles. Pour les plus déterminés, il s'agit du coup de sortir la mini-parabole de manière sporadique pour quelques minutes de connexion, histoire d'éviter d'être dénoncé par des voisins ou repéré par les drones du régime. Difficulté supplémentaire, les autorités se sont mises ces derniers jours à utiliser des brouilleurs qui sont d'une efficacité redoutable, nous dit la presse. Ce serait du matériel probablement fourni par la Russie ou la Chine. Tous ces obstacles mis bout à bout font que même les quelques dizaines de milliers de personnes qui disposent d'une installation Starlink, c'est pas grand-chose par rapport aux 90 millions d'habitants. Même cette petite minorité n'a presque plus la possibilité de communiquer au-delà des frontières.
Alors, est-ce qu'il n'existe pas d'autres moyens que Starlink?
Alors si, certains Iraniens en exil, spécialistes de la cybersécurité ou des télécoms, ont mis au point des problèmes informatiques capables de contourner le blocage. L'une de ces messageries, que nous décrit le Financial Times, s'appuie sur les infrastructures Internet rudimentaires que le régime a laissées en route. Par un jeu de code, un petit logiciel d'envoi d'e-mails approuvé par le gouvernement peut par exemple devenir un moyen de communication avec le monde extérieur. D'après le journal londonien, un simple navigateur uniquement textuel peut également contourner les blocages. Mais ces techniques, elles ne marchent pas à tous les coups, elles ne sont que des pansements en attendant le rétablissement d'Internet. Dans combien de temps? Quelques jours? Quelques semaines? Une question taraude la presse internationale, surtout à quoi l'Internet iranien ressemblera-t-il une fois remis en marche?
Merci beaucoup Sacha Mitchell, journaliste à Courrier International, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site de la Fabrique de l'Information, sur Radio France et évidemment du côté de Courrier International. Nathalie Cazemajor, peut-être pour terminer, vous qui êtes une spécialiste des communs aussi, on a parlé des menaces qui guettaient et qui inquiètent Wikipédia, mais Wikipédia peut aussi servir peut-être d'inspiration pour imaginer un monde meilleur dans le cadre de notre espace numérique informationnel.
Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment un modèle qui est très, très singulier, qui doit être protégé et qui doit pouvoir encourager d'autres outils développés en open source et en logiciel libre, c'est-à-dire pouvoir être finalement un levier pour tout un écosystème d'outils au service de la démocratie. Et donc d'être un fer de lance non seulement de données ouvertes, mais aussi voilà, d'encourager la production de ces outils qui peuvent servir plus largement au maintien d'un espace public pluriel et démocratique.
Et ben voilà, Wikipédia à 25 ans, c'était important pour nous ici à la Fabrique de l'Information de saluer cet anniversaire, de se projeter aussi vers l'avenir, évidemment, en espérant que dans 25 ans, Wikipédia sera toujours là et aura résisté aux différentes menaces que nous avons parcourues aujourd'hui avec vous, Jérôme Hergueux. Je vous renvoie à votre ouvrage Wikipédia ou Imaginez un monde avec vous, Rémi Gerbet. Vous êtes le directeur exécutif de Wikimedia France et avec Nathalie Cazemajor. Je remercie à la préparation de cette émission comme chaque semaine. Eh bien, Joséphine Reynard à la réalisation, Sorge Leroy et à la vidéo Félix Delacour, car cette émission de la Fabrique de l'Info est également retrouvée sur notre chaîne YouTube.